voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Camille Jusa rencontre Mathalie Crasset. Ce soir, de la Marne à Berlin, s'échapper.
Alors il y a ce lit d'appoint auquel on a assorti une lampe de chevet et un réveil matin. Petites attentions pour les amis qui voudraient rester dormir. Il y a un téléviseur Thomson ou encore un radiocassette, un verre Orangina, une lampe Ikea, une bague en forme de torche pour faire étinceler les diamants ou encore des poufs qu'on croirait taillés dans des sacs Tati. Il y a aussi un hôtel acidulé à Nice, un autre aux portes du désert tunisien. Une maison en béton et une autre pour les enfants et leurs parents nichés au 104 à Paris. Il y a la scénographie d'un concert ou celui d'un salon d'art contemporain à Montrouge. Et tous ces objets, quelle que soit leur taille, ont en commun d'avoir été inventés par la designeuse Mathalie Crasset. Alors, le grand public connaît peu le nom de ces architectes et de ces designers. Donc, à ceux qui ne remettraient pas tout de suite un visage sur ce nom, on peut peut-être rappeler que Mathalie Crasset, c'est d'abord cette allure très repérable qui s'avance quasiment comme un logo ou en tout cas comme une signature. Une coupe de cheveux à la Jeanne d'Arc, frange rabattue sur le front, cheveux rasés au-dessus des oreilles et un peu dans le cou pour faire, ce qu'on appelle une sorte de coupe au bol. Et puis des montures, des lunettes à la monture large, un peu comme un masque, et qui sont blanches aujourd'hui. C'est donc avec vous, Mathalie Crasset, bonsoir.
Bonsoir.
Que nous allons passer toute cette semaine à parler de graphisme, de mobilier, de scénographie, d'architecture. Vous nous recevez chez vous, dans le quartier de Belleville, à Paris, dans votre appartement qui est aussi votre agence, ou votre agence qui est aussi votre appartement. Et c'est pas complètement anecdotique de le souligner, parce que ça a sans doute à voir avec votre manière de détourner les usages, les fonctions, et de vous affranchir de certaines limites, ou en tout cas certaines frontières qu'on pose habituellement entre les disciplines. Alors justement, en guise d'introduction, une question toute simple, mais peut-être pas forcément évidente pour les néophytes, une question de définition. C'est quoi le design selon vous, Mathalie Crasset? Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ce mot-là?
Alors le design, j'espère qu'il n'y a pas qu'une seule définition. Je pense que je vais donner ma propre définition et j'espère que chaque designer a sa propre définition pour justement faire en sorte de définir, de bouger les limites de cette discipline et de l'inventer au quotidien. Pour moi, c'est avant tout essayer de réinjecter du vivre ensemble dans les espaces, dans les objets, à travers les espaces et les objets. Et donc, en fait, c'est dessiner des objets, des espaces, c'est pas une finalité pour moi. C'est plutôt l'idée que c'est avec l'aide de ces objets, de ces espaces, que je vais pouvoir, en fait, avoir des intentions. Parler d'hospitalité, parler de partage, parler, voilà. Donc, en fait, je vais utiliser ces objets et ces espaces. Donc, en quelque sorte, le design va prendre des formes très, très différentes selon la démarche du designer. Et en quelque sorte, ça va ramener de la diversité à la vie. Un peu à l'inverse de ce qu'on explique du design, qui est en fait, quelque part, un outil pour aider à l'uniformisation, à la standardisation. Je crois qu'aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. En fait, c'est cette capacité, en partant de notre propre approche, de notre vécu personnel, à arriver à donner du relief à la vie.
Alors, on est ici au fond de la cour d'une ancienne imprimerie réhabilitée, dans ce Paris des anciens faubourgs, au pied du village de Belleville, dans une atmosphère plutôt industrielle ou post-industrielle, en tout cas très urbaine. Or, vous n'avez pas du tout grandi en ville. Vous êtes né en Champagne, et pas dans cette Champagne chic du vignoble, dans ce qu'on appelle la Champagne pouilleuse, dans un village qui s'appelle, ça ne s'invente pas, Normé.
Tout à fait.
Et à quoi ressemble votre enfance, Mathalie Crasset? Quel en est le décor?
Alors, je suis dans un tout petit village de 80 habitants. J'ai la chance d'être dans une famille qui est simple, on est quatre enfants, une famille nombreuse. Je suis entourée par deux garçons et il y a aussi une spécificité qui pour moi a beaucoup d'importance, c'est que je suis jumelle. Donc voilà, on est dans une famille d'agriculteurs. Ma maman a cette caractéristique d'être très généreuse, elle ne vit que pour les autres. Et mon père, quant à lui, on l'appelle d'ailleurs Daddy Cool. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Il est toujours en train d'expérimenter. Malgré son métier d'agriculteur, qui semble comme ça assez normalisé, lui, il pousse aussi, en quelque sorte, à sa façon, les limites, en inventant en modifiant ses machines, voilà, en faisant un certain nombre d'expérimentations, on va dire, d'expériences avec ses pratiques de l'agriculture. C'est dans ce creuset que je nais. Je suis super contente d'être à la campagne parce que pour moi, la campagne est un terrain de jeu immense. Il suffit de sortir et tous les jours, on réinvente en fait en quelque sorte un jeu, mais c'est un jeu à échelle 1. C'est pas un petit jeu qu'on va faire sur une table dans un coin. C'est vraiment énorme en fait la façon de pouvoir interagir avec le monde qui nous entoure et en même temps avec des choses assez simples parce qu'un bâton va un jour devenir, je sais pas, un mât, le lendemain ça va devenir en vertical autre chose. Donc, voilà, donc ça demande en même temps en quelque sorte une imagination pour arriver en fait à partir de ces, je dirais, ces semi-produits, ces stimuli qui sont autour de nous, de pouvoir inventer au quotidien des jeux, de pouvoir les partager aussi bien sûr. Et j'ai en mémoire surtout des grands partie de transformation des balles de paille de mon père en cabane, en tunnel, etc. Et à l'époque, j'étais assez petite et porter une balle de paille, c'était lourd, donc c'était aussi très contraignant, mais en même temps, la joie de pouvoir configurer un espace de jeu complètement différent tous les jours avec ses modules, c'était quelque chose, je pense, qui m'a vraiment énormément nourri. Et quand on regarde un petit peu ce que je fais aujourd'hui, je pense qu'il y a une relation directe sur cette idée de proposer en fait à chacun, en quelque sorte, d'avoir un peu cette même interaction avec le monde qui nous entoure et de pouvoir au quotidien le modeler, le modifier en fonction de ses envies pour en faire en fait des activités. Donc cette notion d'activité, elle est très très ancrée. Elle a été aussi, je pense, l'héritage de mon papa qui fait correct son métier en fait. On ne peut pas l'imaginer autre que agriculteur, travaillant. Et en fait, cette relation très forte, imbrication avec le métier, elle vient de là. J'avais ce modèle-là en fait à la maison. Et même si c'est complètement différent, l'agriculture et le design qui fait peut-être plus partie de ce qu'on peut appeler le monde culturel, je pense que j'ai gardé le même type de fonctionnement. J'envisage pas de pouvoir le faire autrement. Et c'est pour ça que ce métier, c'est pour ça qu'en fait mon bureau est associé à ma maison. C'est aussi pragmatiquement quelque chose de très intéressant de ne pas être dans une posture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Et donc, ça me permet en quelque sorte de faire une petite sélection naturelle. C'est-à-dire, si les gens arrivent chez moi, ils ne comprennent pas que je suis dans un lieu où je vis et que, parce que c'est ce que je défends, en fait, dans les projets injectés de la vie, je pense que déjà, ben, on est peut-être pas, on partage pas les mêmes valeurs, en fait, donc on va peut-être pas continuer à faire le projet, parce que l'important, c'est ça, c'est de faire des projets qui font sens et de trouver les bons partenaires pour faire les projets.
D'ailleurs, là, vous parlez des balles de paille, mais vous avez fait un canapé pour enfants qui est un petit peu le prolongement de ces balles de paille, permis de construire, c'est ça, Nathalie Crasset?
Oui. Donc, si je reviens à mon enfance, c'est sûr que il y a beaucoup, beaucoup de liens, donc normés. Ça veut dire que très rapidement, quand on devient ado, on comprend que c'est pas dans ce cadre-là qu'on va s'épanouir. Donc, il va falloir bouger, partir. Et on rêve de Paris. Et je rêve pas de Paris toute seule. Je rêve de Paris avec ma sœur. Et puis, c'est aussi cette idée de se projeter. Et je pense que ça, c'est important parce que de tout petit, en fait, il y a cette espèce de dynamique, une dynamique interne qui se met en branle. Alors, au début, un peu secrètement, parce qu'on n'ose pas trop le dire. On pense que, bon, déjà, ça va un peu peiner les parents. Je pense ils imaginent plutôt qu'on reste près d'eux. Et je comprends ça de plus en plus parce que j'ai des enfants qui vont bientôt quitter le lit. Mais petit à petit, ça devient quelque chose qui prend une réalité. Mais il faut trouver dans quel domaine, en fait. Il faut trouver un ancrage. Ma sœur jumelle, elle a trouvé très rapidement, elle voulait travailler dans le cinéma. Ça a toujours été son. Voilà. Moi, j'étais plus floue, où en fait, je me suis aperçue que j'ai pas eu, en fait, comment dire, une aspiration comme ça très 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 évidente à décrire au départ, mais je me suis souvenue que mon stage de troisième, en fait, d'immersion en entreprise, je l'ai fait chez un architecte. C'est pas un hasard, en fait. J'étais allée dès la troisième connaître ce métier, mais en fait j'avais trouvé un architecte qui était un notable, et d'un seul coup je me suis dit c'est pas pour moi, je peux pas accéder à ce monde-là. Donc d'un seul coup je me suis en fait en quelque sorte, j'ai remis toutes ces idées à l'intérieur de, enfin je les ai gardées en tout cas à l'intérieur de moi, et il y a que quand à un moment donné on peut les exprimer, et ça va se faire peut-être un peu plus tard, quand d'un seul coup on s'aperçoit que d'autres personnes ont cette envie aussi de bouger et de faire ce métier qui est de, en quelque sorte de matérialiser les choses.
Alors du coup, vous avez une sorte d'erreur d'aiguillage, hein, c'est-à-dire que, alors est-ce que c'est parce qu'il y avait ce stage chez cet architecte notable ? En tout cas, vous partez dans des études de marketing.
Oui.
Qui vous rendent assez triste, assez... comment ça se passe ?
Certaines notions m'intéressent. J'aime beaucoup l'économie, parce que j'aime bien tout ce qui est système. Donc comprendre les rouages de l'organisation d'une entreprise, ça m'a beaucoup intéressée. Mais petit à petit, je me sens pas du tout à l'aise par rapport à ce que deviennent les gens, comment les gens se transforment dans cette école, parce qu'il y a quand même eu une transformation. Et surtout, je ne trouve pas de personne avec qui parler d'art et de design. Je commence à m'éveiller et à vouloir m'intéresser à cette culture. Et en fait, je ne trouve personne en fait, avec qui échanger. Sauf juste avant de partir de l'école et de réaliser le stage de fin d'année, il y a une amie en fait qui fait des cours d'allemand qui me dit tiens, il y a un jeune homme dans mon cours d'allemand qui s'intéresse justement à l'art. Et ce jeune homme, c'est Francis, donc qui va devenir mon mari. Et en fait, on va vraiment se connaître quand on va partir tous les deux en stage, ce fameux stage de fin d'études à Berlin. Voilà, donc les choses sont...
Qu'est-ce qui se passe à Berlin ?
Donc, à Berlin, il faut se remettre un peu dans le contexte. Berlin, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. À l'époque, à Berlin, on a essentiellement des jeunes qui ne veulent pas faire leur service militaire, puisqu'en fait, ils ont la possibilité de ne pas le faire à Berlin.
On est en 1987.
Voilà,
hein.
C'est avant la chute du mur. On a un peu tous les originaux qui sont là, les punks. Il y a une espèce de mouvance de gens comme ça très différents si bien que quand on se promène dans la ville, et notamment je me souviens me promener dans Kreuzberg, on voit émerger des choses qui sont dans des espaces abandonnés, une galerie improvisée, du son qui sort de caves qui sont des groupes qui jouent de la musique, plutôt de la musique industrielle, etc. Donc il y a une espèce de vivier et en même temps une façon de vivre qui nous interpelle parce qu'on est jeune, on a aussi cette facilité d'aller voir les gens parce qu'en fait quand on vient à Paris, on n'est pas les plus curieux en fait. Par contre à l'étranger, on a poussé beaucoup de portes, on est allé rencontrer par exemple des gens comme Christian Bongraber qui à l'époque était un théoricien du design, qui malheureusement est décédé du sida peu après, mais qui lui en fait avait essayé de mettre en scène justement toute cette scène artistique à l'époque, et nous avons rencontré des designers, mais qui avaient une posture complètement différente de ce que moi je commençais à entrevoir dans le design industriel, c'est-à-dire un peu la vision que me donnait à l'époque le CCI avec sur la création de produits industriels, etc. Et là je voyais que ces designers étaient aussi des artistes en fait, qu'ils avaient cette culture assez large et qu'ils avaient aussi une posture engagée. Et ça m'a beaucoup intéressée puisqu'en fait, à Berlin à l'époque, il n'y avait pas d'industrie vraiment. Donc en fait, ils trouvaient le moyen de s'exprimer, de le faire à travers l'objet, mais ce n'était pas du tout de l'objet industriel. C'était des objets qui sont des objets en petite série et voilà, et très affirmés. En même temps, on s'est ouvert à la musique industrielle. Donc c'était très, très intéressant avec des groupes qui étaient des gens qui avaient qui étaient pour moi des vrais artistes parce qu'en fait, ils faisaient partie de groupes de rock, mais ils étaient aussi peintres par ailleurs. Ils écrivaient des livres, etc. Et je peux citer par exemple des groupes comme Ditodish Doris, on commence à les recouvrir, Ditodish Doris, Einschussen den Bauten ou Sprungau den Wolken. C'est des groupes qui sont à l'origine en fait de la musique industrielle et qui petit à petit, en se réchauffant, est devenue la culture électro ou techno, on va dire plutôt, qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Donc une époque formidable parce que je rencontre mon amour, l'amour de ma vie. En même temps, je devais faire un stage qui concernait ma discipline, mais non, je décide de m'intéresser au design. Et on fait un stage, un rapport de stage qui s'appelle Blitzkrieg des Designs. Et donc, on arrive avec...
La guerre éclair du design.
Voilà, la guerre éclair du design, en expliquant comment le design prenait des formes spécifiques par rapport à ce contexte de Berlin. Et voilà, donc en fait, c'est quelque chose qui nous a à la fois renforcé et en même temps, je trouve en fait, en quelque sorte, l'âme sœur qui va me permettre de oser aller me présenter à l'ENSI, rentrer dans cette école que je connais pas, mais que je... En lisant en fait le dépliant de l'école, je me dis voilà, mais cette école elle est faite pour moi. J'ai même pas essayé d'autres écoles. C'était vraiment dans cette école que je voulais rentrer.
Parce que l'ENSI, les ateliers, c'est donc l'École nationale supérieure de création industrielle. C'est pas n'importe quelle école. Hein, elle a été créée au début des années 80, c'est ça, par Mitterrand et Jack Lang.
Jack Lang. Ouais.
Les parrains sont Charlotte Perriand et Jean Prouvé. Et il y a vraiment ce souci à l'époque de développer le design en France dans l'esprit du Bauhaus et d'associer art et industrie. Et donc c'est une époque où le design a sa place à Beaubourg, hein, qui abrite encore le centre de création industrielle. Mais là, il y a vraiment l'idée aussi de développer le design et de former une génération designer. Vous arrivez à ce moment-là dans cette école.
Ce qui est très beau, c'est qu'il y a une volonté politique, puisque apparemment c'est une lettre de Mitterrand qui demande à Jacques Lang de créer cette école, qui va donc être... à la fois à cheval sur le ministère de la Culture et le ministère de l'Industrie, ce qui fait sens par rapport à ce qu'elle propose, et avec un projet pédagogique complètement particulier. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on demande à Patrick Bouchain l'architecte de concocter parce qu'on a cette intuition aussi que faire ce métier... Acquérir, c'est pas simplement acquérir ces outils, mais aussi avoir une démarche particulière. Eh ben, ça demande en fait un système pédagogique très différent, avec un cursus individualisé, avec beaucoup d'autonomie, l'idée de pouvoir rencontrer aussi beaucoup de gens différents. On est loin de l'idée d'avoir des maîtres, par exemple. L'idée c'est qu'il y a plusieurs unités, on doit passer d'une unité à l'autre. En fait, tout est très réfléchi pour petit à petit à la fois donner confiance toute la générosité que j'ai dans mon travail aujourd'hui, elle vient à la fois de ma mère et en fait elle vient de l'ENSI.
Est-ce que c'est simple de rentrer dans cette école ? Donc là, vous arrivez de Champagne, vous avez ce stage à Berlin, mais vous arrivez de vos études de marketing. Est-ce que c'est évident de passer ce concours, Nathalie Crasset ?
Non, mais en même temps, l'école est pragmatique et en fait, elle va pas demander aux gens, par exemple, aux postulants de dessiner, contrairement aux arts déco à l'époque, puisque on part du principe que c'est qu'un outil et que ça s'apprend. Donc, on va pas lui demander dès l'entrée. Hein, et en plus, on n'est pas obligé de dessiner. On peut utiliser de la vidéo. Il y a plein de façons de s'exprimer, de communiquer avec les autres. Et donc, le recrutement se fait plutôt sur la motivation, sur la façon dont on réfléchit par rapport à l'évolution de la société, comment on porte un regard, en fait, ce qui est autour de nous. Et puis après, sur notre capacité aussi à interagir avec les autres, puisqu'il y a une partie de l'épreuve d'entrée qui est justement des projets de groupe. Et on voit tout de suite, en fait, un peu le rôle de chacun. Et si on a envie justement de construire avec les autres, puisqu'en fait, c'est un métier où on n'est pas tout seul, en fait, hein, on interagit avec beaucoup, beaucoup d'acteurs différents. Donc j'arrive à rentrer dans cette école en ayant fait... un dossier personnel, un peu toute seule. J'avais pas trop de conseils, je savais pas ce qu'il fallait présenter. Et donc je me suis dit, il fallait beaucoup, beaucoup de choses différentes, de la photo, voilà. Et j'ai fait ça toute seule, mais avec cette conviction que c'était ma voie. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai cette même... chose qui me pousse, en fait. Voilà, c'est une espèce de moteur là, qui me... Et je continue, en fait, sur cette même dynamique. En fait, c'est ça qui est assez beau.
Qu'est-ce que vous testez dans cette école? Est-ce que vous allez avoir une obsession pour un certain matériau? Est-ce que vous avez déjà une idée du métier de designer et vous dites, moi, je veux faire que des objets? Qu'est-ce qui se passe pendant ces années d'études?
J'expérimente beaucoup. C'est une école, justement, qui le permet. Pour arriver à trouver sa propre démarche, il faut, en effet, prendre des risques. Il faut essayer, revenir, douter, être encouragé. Et il y a toute une structure dans l'école qui permet vraiment de petit à petit prendre confiance. Et puis, ce qui est formidable et que j'ai vu nulle part ailleurs dans d'autres écoles, c'est qu'on est mélangé. En fait, il n'y a pas de promotion. C'est-à-dire que quand on arrive, on va faire les mêmes projets que quelqu'un qui est en cinquième année. Et donc, d'un seul coup, au début, on dit « mais j'arriverai jamais à faire ça ». Puis petit à petit, voilà, on arrive à voir aussi ce qui nous différencie. Et quand on fait un projet, on n'en fait pas, on en fait 30, on en fait 15 en fonction du nombre de gens qui participent au projet. Et ce qui fait que quand on sort de cette école, on est assez autonome, puisqu'il n'y avait même pas d'évaluation. Il y a une auto-évaluation et après des évaluations tous les 6 mois, mais avec des gens qui viennent de l'extérieur. Donc en fait, on est responsable de son développement. Et ça, c'est complètement... quelque chose d'essentiel dans le métier de designer qui est sans arrêt en mouvement. Moi, je pars du principe que je ne sais jamais rien, qu'il faut que sur chaque projet que je commence, il faut que je rentre en immersion, que je trouve en fait comment les choses s'articulent et qu'à partir de là, je vais commencer à réfléchir. Donc, c'est une posture, cette idée de rien savoir, de tout chercher, d'être curieux sur les choses qui est essentielle pour ce métier de designer. Alors, on ne l'exerce pas tous de la même façon, mais moi, c'est ma vision de l'exercice du métier.
Est-ce que vous constituez une sorte de pas de réseau, parce que c'est pas très joli comme mot, mais de je sais pas, d'amitié à ce moment-là? Est-ce que vous êtes encore en contact avec d'autres designers?
Bien sûr, on est toute une génération à être sortis en même temps, enfin pas en même temps, mais on était là en même temps dans le lieu. Ce qui est assez beau de voir, c'est que on fait tous des choses différentes. Mais on était tous ensemble. Donc, c'est vraiment pas un moule. C'est vraiment un lieu qui permet, en quelque sorte, de catalyser. Et je dis que c'est, en quelque sorte, le meilleur qu'on puisse faire d'une école, c'est un accélérateur, en fait. Donc, on arrive à partir de ce qu'on est. Et comme on a, en fait, dans le design, une notion d'artistique, et ça, j'insiste beaucoup, cette notion d'artistique implique de se connaître soi, mais aussi, petit à petit, d'arriver, en fait, à convoquer le sensible. Et cette convocation du sensible, elle demande du temps, elle demande, voilà, c'est très subtil en fait, c'est quelque chose que chacun doit articuler à sa façon, d'où la complexité en fait de cette éducation en fait du design.
Et puis du coup, vous êtes à Paris. Comment ça se passe, cette arrivée à Paris? Est-ce que vous...
Alors Paris, c'est un rêve, parce qu'en fait, c'était l'idée de partir de ce petit village et aussi l'idée d'arriver à Paris. À l'époque, étudier le design, on ne pouvait pas le faire dans les grandes... en province, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les sections dans les écoles d'art comme aujourd'hui. Donc, mais il y avait aussi cette volonté de venir et d'en démordre, avec la capitale. Là encore, un peu comme à l'école, j'étais un peu boulimique. Je voulais tout voir, toutes les expos. Beaubourg, bien sûr, parce que je pense que c'était... Le lieu de l'accessibilité à l'art. J'avais même pris un abonnement à l'IRCAM où je venais voir des répétitions. Il y avait un peu cette volonté aussi de rattraper le retard par rapport à cette culture artistique que j'avais pas eue dans mon enfance. Et donc c'était une période où j'avais pas assez de temps dans la journée. En plus, on pouvait travailler la nuit, en effet, à l'école. Donc j'avais pas assez de temps pour faire tout ce que j'avais envie de faire et tout découvrir.
Vous ne nous avez pas dit, Mathalie Crasset, d'où vient votre prénom? Parce que c'est pas Nathalie, c'est Mathalie, M comme maman, A-T-A-L-I. D'où ça vient, ce prénom?
En fait, mon vrai prénom, c'est Nathalie, mais petit à petit, ça s'est transformé en Mathalie. La première chose que disent les enfants, c'est Mathalie, parce qu'en fait, ils savent prononcer maman, et donc ils ne savent pas dire Nathalie. Et donc, c'est devenu mon nom dans ma famille. Et petit à petit, je ne me reconnaissais plus derrière le... Quand on m'appelait Nathalie, je ne me répondais même plus. C'était plus mon... ça ne me correspondait plus. Et donc, tout simplement, c'est devenu mon nom, en quelque sorte, d'artiste, de façon très, 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 très simple.
Et votre silhouette, alors, votre allure?
Quand on vient d'un petit village et qu'on, quelque sorte, on n'a pas, j'avais pas envie justement de rester dans ces codes et très rapidement.
Ce petit village normé.
Voilà, qui est normé. Et donc, très rapidement, j'essaie de me détacher, en fait. Dans un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde se regarde aussi. Et puis, il y a des codes qui sont très affirmés, on va dire. Et donc là, l'idée, c'était petit à petit d'arriver à s'affranchir de ces codes. Et qui veut dire aussi certains codes de féminité qui nous sont imposés. Et de pouvoir choisir des choses qui sont plus personnelles. Et la coupe de cheveux, elle est venue à l'école où j'ai essayé plein de choses. Et puis, à un moment donné, je me suis sentie vraiment bien, en fait. C'est avec cette coupe, parce que... Et je pense que vous n'allez pas me croire, mais parce que ma tête respire. Et comme la majorité du temps, je pense que mon métier, c'est de réfléchir. Je pense qu'il y a une liaison directe avec cette idée de respiration de la tête. Voilà.
Il y a votre coupe de cheveux, il y a vos lunettes, il y a aussi votre manière de vous habiller. Très graphique, quand
très
même.
Très colorée, oui.
Et très colorée. Ça aussi, ça se met en place très tôt à l'école.
Oui. C'est déjà donc... à l'école. Je fais plein d'expériences. Je trouve mon identité parce que c'est un peu ça aussi. C'est un process parallèle. Trouver son identité, trouver son approche, ce sont des voilà. C'est ce qui se construit petit à petit et qui fait que on va proposer en fait quelque chose de différent.
En 91, pour votre diplôme, vous vous présentez un drôle d'objet, trois objets même, parce que il s'agit d'un projet que vous avez intitulé la trilogie domestique, et c'est fort de cette proposition que vous allez vous envoler vers vos premiers boulots à Milan, puis après avec le designer star Philippe Stark, et c'est demain qu'on en parlera ensemble. Merci beaucoup, Nathalie Crasset.
Merci à vous.
Et à demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Camille Jusa avec Nathalie Crasset. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Arthur Gerbeau, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.